voix nue. Toute cette semaine, Sylvie Tanette rencontre Jean Rouault. Ce soir, l'autobiographie pour remonter le chemin d'écriture.
Bonsoir Jean Rouault.
Bonsoir.
Alors, on a beaucoup parlé dans nos précédentes rencontres de vos romans, de vous, de votre famille, puisque dès le début, vous avez travaillé autour de votre histoire familiale. Et petit à petit, dans vos textes, on vous avait vu régler la focale, on va dire, rétablir certains noms de lieux, certains noms de personnes que vous aviez au départ transformés dans vos premiers romans. Alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant un autre moment de votre travail, un cycle ouvertement autobiographique, entamé en 2011 avec « Comment gagner sa vie honnêtement », j'adore le titre, poursuivi avec « Une façon de chanter » en 2012 et « Un peu la guerre » en 2014, puis ensuite « Être un écrivain » en 2015. Et je me demandais pourquoi Jean Rouault, près de 20 ans après votre premier roman, vous avez comme ça éprouvé le besoin de vous lancer dans ces textes autobiographiques.
En fait, c'est quelque chose de très ancien que j'avais élaboré du temps du kiosque. C'est pour vous dire que j'ai de la suite dans les idées quand même. Ça a été très important à ce moment-là, un grand lecteur de Chateaubriand et de Rousseau. Et en fait, les deux livres que l'on lit toujours de Chateaubriand et de Rousseau, ce sont Les Mémoires d'Outre-Tombe et Les Confessions. Or, pour écrire Les Mémoires d'Outre-Tombe et pour écrire Les Confessions, il faut avoir une œuvre littéraire. C'est-à-dire que vous avez ce paradoxe que l'œuvre littéraire, Les Mémoires d'Outre-Tombe ou Les Confessions, n'existe que parce qu'il y a une œuvre littéraire antérieure qui, au fond, disparaît et s'efface pour laisser la place aux Mémoires d'Outre-Tombe et aux Confessions. Autrement dit, l'œuvre n'est qu'une anticipation de l'œuvre. Vous voyez ? C'est-à-dire, j'écris une œuvre pour pouvoir après dire que j'ai écrit cette œuvre-là, me permettre d'écrire ça. C'est-à-dire de Chateaubriand, quand il raconte ses débuts avec Atala, et quand les chants d'honneur sont parus, ça m'a fait rire, parce qu'il y avait un côté comme ça, l'éruption dans le paysage littéraire, comme avait été Atala pour Chateaubriand, et je me suis dit, voilà, les chants d'honneur, c'est mon Atala. C'est-à-dire, sur les chants d'honneur, je pourrais construire ce récit des chants d'honneur. Et alors, ça donne une. J'avais une interrogation. Donc, celle-là, on est dans les années 80. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que mon cas est grave, parce que je ne suis rien, je n'ai encore quasiment. Enfin, je n'ai rien publié. Et je suis déjà en train de me demander comment je vais parler de ce livre que j'aurais écrit. Donc, la question du point de vue, ça a été très très important dans cette réflexion-là. Le point de vue de Rousseau dans Les Confessions, donc il se retourne et il dit, au fond, tout mon malheur vient de ce premier livre que j'ai écrit et j'aurais mieux fait de me casser une jambe plutôt que de répondre à la question de l'Académie de Dijon. Et donc, tout son ouvrage est centré entièrement sur lui. Le monde n'est qu'un monde hostile qui veut sa perte. Ça, c'est le point de vue de Rousseau. Après, il y a Chateaubriand, qui a été un grand lecteur et admirateur de Rousseau, qui sait que ça y est, c'est fait. Donc, on va pas reprendre ça. Donc, comment parler de soi, de son œuvre, de son rapport au monde, autrement qu'à la façon de Rousseau, qui reçoit tout comme une offense et comme une blessure. Donc le point de vue de Chateaubriand, c'est de dire, je suis témoin, j'étais là. Et si je n'étais pas là, du moins on m'a raconté que. Et donc à partir de là, je vais pouvoir balayer l'ensemble du spectre de mon temps avec cette assurance que ce que je dis est vrai, puisque je témoigne. Et ce qui là me renvoyait à l'évangile, puisque l'évangile qui pour moi est important, celui de Saint Jean, puisque c'était mon saint patron. Dans le calendrier, vous avez deux Saint Jean, il y a Saint Jean Baptiste, le 24 juin, et Saint Jean l'évangéliste, le 27 juin, et la dernière parole de mon père, ça a été pour me souhaiter ma fête le lendemain. Et à la fin de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, il dit « Je suis ce disciple qui témoigne, qui a vu ces choses et qui et donc qui atteste que tout ça est vrai. » C'est pas la formule exacte, mais enfin l'esprit, c'est ça. Donc le il y a cette idée que le si je témoigne, alors c'est, ça veut dire qu'on ne pourra pas remettre en question ce que je raconte. Je suis un témoin honnête. Et donc, ma parole, à ce moment-là, a ce poids-là de la vérité, du seul fait que je me place comme témoin. En fait, on sait bien que c'est un subterfuge, parce qu'en tant que témoin, je peux aussi raconter, même de bonne foi, des choses, on le sait dans les témoignages, dans les cours d'assises, où sur une même scène, vous avez 15 versions différentes. Donc, simplement, en tant que romancier, je peux abuser de ce pôle-là, c'est-à-dire, je suis le témoin, je vous dis que j'étais là, donc qu'est-ce qui vous dit, vous, lecteur, que j'étais vraiment là? Vous êtes obligé de me croire. Hein? Donc c'est une posture. Et alors le coup de génie de Chateaubriand, c'est de nous faire croire, par exemple, qu'il a vu le général Washington quand il va aux États-Unis. Donc il est tout jeune, il n'est pas Chateaubriand, c'est juste un branleur qui va aux États-Unis pour découvrir le passage du Nord-Ouest, qui était complètement fou, enfin bref. Et il dit qu'il rencontre Chateaubriand. Et on est à peu près sûr qu'il ne l'a jamais rencontré, puisqu'on a des témoignages de Washington disant « on devait me présenter tel jeune homme ». Et voir comment Chateaubriand présente ça dans son livre. Il dit « Général Washington est assez ressemblant à ses portraits ». Génial, puisque si vous prenez un portrait de Chateaubriand, si je vous dis qu'il ressemble à ses portraits, c'est donc que moi j'ai vu Chateaubriand. J'ai vu Washington. Oui. Donc c'est comment témoigner en assistant à quelque chose que vous avez reçu et qui vous a marqué. Alors, c'est évident que ce n'est pas le passé de Chateaubriand et que le mien est très très modeste. En revanche, dans ce passé-là, il y a deux guerres mondiales. Et puis, il y a donc la fin d'un monde, dont on parlait l'autre jour, la fin de cette civilisation rurale. Et puis, ça va croiser aussi un autre événement, qui est un événement qui, évidemment, n'a pas l'intérêt pour la marche du monde, mais qui est évidemment essentiel quand on écrit. C'est ce que moi, j'ai traversé lorsque j'ai entré à la faculté, à l'université, à savoir la mort du roman. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'un pays qui déclare qu'on ne peut plus raconter d'histoire sur son compte? Sauf que moi, j'ai trouvé ça, j'ai pris ça de plein fouet, et si j'ai mis si longtemps à en venir au roman, c'est que j'ai considéré, avec ces gens, que le roman était mort et qu'il était donc impossible d'écrire des romans.
Mais avant qu'on en arrive là dans votre autobiographie, Jean Rouault, il me semble qu'avant tout, cette autobiographie, elle est là pour nous montrer à quel point vous nous avez leurré. C'est-à-dire, il y a un petit épisode très drôle dont vos fans ne se sont jamais remis, c'est qu'au début de « Comment gagner ma vie honnêtement », vous nous racontez que la deux chevaux du grand-père, des chants d'honneur qu'on avait tous adorés. En fait, c'était pas la deux chevaux du grand-père, c'est la deux chevaux de votre compagne de l'époque dans laquelle vous montiez souvent, et c'est ça que vous nous avez décrit. C'est-à-dire, il y a une sorte d'entreprise de désacralisation de votre œuvre précédente, finalement.
Ça vient de toutes ces années-là de théorie littéraire, où on a quand même remis en cause le roman, puisqu'on l'a déclaré mort. Et qu'au moment de le ressusciter, on ne va pas le reprendre comme il était avant, comme si rien ne s'était passé. La mort du roman, c'est une chose, c'est la perte de l'innocence. C'est-à-dire qu'on ne croit plus à ce qu'on lit. Hein? On a perdu cette formidable innocence de Balzac. Au début du Père Goriot, il dit... il commence à raconter donc son histoire, et il dit... All is true, en citant Shakespeare. Donc c'est drôle en plus de citer Shakespeare pour quelque chose d'aussi mesquin. Et simplement, il dit, voilà, tout ce que je vais raconter est vrai, en s'appuyant sur Shakespeare. Shakespeare n'est quand même pas non plus l'homme qui a l'historien le plus rigoureux de son temps. Voyez, donc cette idée-là que je disais tout à l'heure, qu'il suffit d'affirmer que c'est vrai, de même que je peux démentir, on me croira toujours. Qu'est-ce qui vous dit que la dénonciation de nos mensonges n'est pas elle-même un mensonge? C'est infini. Et donc, c'est simplement, ça permet tout un tas de miroitements. Vous pouvez comme ça rechanger, rebrouiller les cartes, retrouver d'autres angles, d'autres points de vue, et ça relance sans arrêt la machine à rêver, la machine de l'imaginaire. Donc ça devient un procédé narratif.
Et vous avez fait le point aussi dans ces livres autobiographiques un petit peu sur votre famille, me semble, une façon de reprendre tous les personnages dans ces livres-là, de nous éclairer sur leur vie. Vous en parlez différemment, et ce qu'on constate finalement, c'est qu'ils étaient très originaux. On voit cette famille se reconstruire dans l'œuvre autobiographique, beaucoup plus originale que la façon dont vous nous l'avez décrite dans les romans. C'est-à-dire, on a l'impression de gens, malgré cette région extrêmement catholique, finalement, en tout cas, le père et la mère ont une certaine indépendance d'esprit, une certaine excentricité. Votre famille se démarque des autres.
Alors, c'était ça qu'on ressentait enfant, mais sans arriver vraiment à l'exprimer. On était différents. Voilà, on se vivait comme des princes en exil. Et alors que, évidemment, la situation sociale était assez précaire. Mais on avait...
Oui, donc vos parents étaient des petits commerçants.
Mon père avait hérité d'un magasin de vaisselle. Et comme ça suffisait pas à nous faire vivre, il est devenu représentant de commerce pendant que ma mère tenait le magasin. Et ce qui fait qu'il n'était jamais là, parce qu'à un moment, il était sur toute la France, enfin. C'était des résidus de quelque chose. C'était des gens déclassés. Du côté de mon père, son père à lui, dont je vous disais l'autre jour que il avait dans les années 20 déjà le téléphone, la voiture, phonogramme, machine à écrire, etc., tout ce qui était à la pointe de la modernité, était un grossiste. C'est-à-dire que c'est lui qui fournissait en vaisselle tous les magasins de la région. C'est pour ça qu'il avait une voiture puissante avec où il pouvait entasser sa vaisselle et tout. Et j'ai appris après... Et j'ai rencontré un jour elle m'a écrit, une femme dont le père avait connu mon père, jeune homme. Et ils étaient ensemble au collège, à Nantes, pensionnaire, et il avait raconté ça sur son lit de mort à sa fille, qui lui avait fait raconter sa vie. C'est évident qu'il n'aurait pas, elle m'a envoyé les 10 pages écrites sur mon père. Il n'y aurait pas eu ces 10 pages-là si j'avais pas écrit ces livres-là et si lui ne les avait pas lus. Mais du coup, ça lui avait fait évidemment revivre cette jeunesse-là. Et pour lui, mon père était quelqu'un d'argenté puisqu'il avait des lunettes dorées, qu'il avait des beaux pyjamas. Et donc c'est des choses que j'ai évidemment découvertes après. Et en revanche, du côté de ma mère, ça, on savait que ça avait été une enfance raffinée. C'est quelqu'un qui allait à l'Opéra de Paris voir le faisceau fantôme, par exemple. C'était un de ses grands souvenirs. Mon grand-père était musicien. Il y avait régulièrement des concerts de musique de chambre à la maison. Donc la maison de Riaillet, qui est près d'Anceny, là-bas. C'était une grande maison que j'adorais quand j'étais enfant. Vraiment, c'était le avec des semi-paliers, etc. Et c'était une famille où on recevait, mon grand-père était ami avec un théologien, il y avait des gens tout à fait surprenants. Comme ça. Et ma mère racontait ça de temps en temps, elle émaillait comme ça, elle évoquait ça. Mais plus souvent, évidemment, c'était par mon oncle que j'ai eu et par ma tante que j'ai eu ces renseignements-là. Et évidemment, après, j'ai découvert des photos. Il y avait une maison de vacances qui était à Préfailles, et Préfailles, c'est le Balbec de ma mère. J'ai des photos d'elle, de toute la famille. Ils sont, vous savez, dans ces grands salons vitrés, là autour. Vous diriez, ben oui, c'est Proust, enfin, c'est ça. Et elle, sans doute pour ne pas. Parce que peut-être c'est pour ne pas vivre ça comme une nostalgie perpétuelle, a rompu avec ça. C'est-à-dire qu'elle n'en parlait quasiment pas, je lui apporte juste comme ça, des quelques petites confidences. Et elle avait tourné le doigt à ça. Voilà, sa vie, c'était ça maintenant, ce magasin assez peu important au début, puisque quand mon père revient de la guerre, donc c'est-à-dire de la résistance, tout le système qu'avait mis son père en place, évidemment, tout ça s'était effondré. Et la preuve de l'esprit d'entreprise de ses grands-parents, c'est qu'il y avait dans le jardin, il y avait quand j'étais enfant, et ils sont encore toujours, des poteaux de béton qui devaient supporter un gigantesque entrepôt qui aurait fait 100 mètres de long. Vous voyez, c'est faut en mettre de la
voilà, donc c'est de ça la question que j'allais vous poser, Jean Rouault, c'est que, pourquoi tout ça a disparu? C'est la guerre, en fait,
c'est
qui a
guerre.
Fait que la famille s'est retrouvée
voilà, tout ça. Et
dans
du
une
côté,
situation précaire.
Du côté de ma mère, il y a des gens qui ont... qui, après la Première Guerre mondiale, n'ont plus rien fait non plus, qui sont revenus de la guerre et qui, vous savez, ont vécu comme ça, ont dilapidé les biens et tout. Et, mais il y avait ça, quoi. C'était là avec, d'abord cette idée, comme une espèce de musique lointaine qu'on aurait entendue comme ça de ces soirées musicales, dans le lointain, comme ça. Donc on savait qu'il y avait ça.
Mais est-ce que c'est pas ça qui vous a permis de devenir l'écrivain que vous êtes, Jean Rouault, c'est-à-dire d'être finalement décalé à l'intérieur de ce monde rural dont vous nous avez parlé dans vos romans, mais au fond, dès le départ, vous étiez déjà un observateur.
En tout cas, décalé, oui, puisque c'est quelque chose que je ne supportais pas, l'idée d'être dans ce milieu-là, rural, comme ça, dans cet environnement-là, je ne supportais pas. C'était quelque chose qui m'était... je ne voulais pas être assimilé à ça. Parce que il y avait tout ça derrière, vous voyez, il y avait cette idée qu'il y avait eu des fastes dans le lointain. Par exemple, du côté de ma mère, ils avaient créé une coopérative d'achat, une des premières, qui est depuis devenue Super U ou je sais pas quoi, enfin, et ça s'appelle Le Quotidien. Et moi, je me souviens, enfant, on trouvait du café Le Quotidien, enfin, des tas de choses comme ça, toute une gamme de produits. Donc, il y avait tout ça qui était là et qui faisait qu'on ne pouvait pas être réduit à cet environnement de rural. Et en plus, en sachant qu'on attachait grande importance à la langue, on était tout enfourré de nez dans les dictionnaires. Dès qu'il y avait un mot comme ça dont on cherchait la définition, on allait dans les dictionnaires en 6 volumes. Là, ils sont là, la rousse. Et c'était automatique, c'était le réflexe. Et... quand j'étais enfant, la campagne parlait en patois. Et par exemple, au magasin, il y avait des gens, ça nous faisait rire, évidemment, avec mes sœurs, qui demandaient, je voudrais une bol, pour un bol. Vous voyez, il y avait parfois des mots qu'on ne comprenait pas, des archaïsmes comme ça, du patois, quoi. Et il y avait, nous qui avions cette haute idée de la langue, mon père était un grand lecteur, pour moi, c'était c'était pas possible d'être assimilé à ce monde-là. Donc, quand j'ai écrit Chant d'honneur, c'était aussi pour me réapproprier ce monde-là, quoi. Pour dire que ça a été. Moi, je ne venais pas de Balbec, là. C'était ici pour moi, quoi. C'était Cambon-Loire inférieure. Donc, c'était une manière d'affronter sa propre réalité, comme ça. Moi, c'est ça.
Est-ce que vous racontez aussi de votre vie, Jean Rouault, à travers ces textes autobiographiques, ces deux moments qui sont presque antinomiques, c'est les années de collège dans des collèges religieux qui me paraissent être l'enfer sur terre, une horreur et quelque chose d'extrêmement isolé où le monde n'entre pas, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de radio, vous nous décrivez ces collèges religieux, et ensuite l'arrivée à l'université, où là, ça se passe dans le début des années 70, et c'est la liberté totale.
Oui, et c'est pour ça que je parlais de Chateaubriand tout à l'heure, parce que, évidemment, ce qui est pour lui la rupture, c'est la révolution, qui marque l'avant et l'après, et malgré tout, 68, c'est une révolution. Hein. Et d'autant plus lorsque vous n'y avez pas été préparé, et certainement pas par cette enfance dans le milieu rural, avec ce poids terrible de la religion. Et en plus, passage dans ce collège religieux, donc jusqu'en terminale, qui était entièrement clos. On n'avait pas le droit de sortir.
Le collège était à Saint-Nazaire,
Saint-Nazaire
c'est ça,
ouais.
Et la fac était à Nantes.
La fac était à Nantes.
Ouais.
Et donc, ni télé, ni radio, évidemment. Les livres étaient visés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas lire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en gros, à part lire la vie... de Mermoz, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, l'espace clos, ce qui fait que, par exemple, en 68, j'étais en seconde, lorsque les événements arrivent, on ne sait rien. Rien du tout. À un moment, on nous renvoie chez nous, donc on est pensionnaire, hein, donc, c'est une fois à la maison que je commence à comprendre ce qui se passe. Mais sur le... au collège, on nous a renvoyés sans rien nous dire. Donc, c'est un collège uniquement pour garçons. Et sauf en terminale où les filles sont arrivées, parce qu'après 68, il y a eu quand même, ça a commencé à bouger. Et j'ai été en fait renvoyé à la fin de la terminale. J'ai pas compris pourquoi, mais enfin bref, ils voulaient plus de moi. Et puis je suis rentré à l'université, en plus en université de lettres, alors que j'avais fait un bac scientifique, un bac C à l'époque, donc S maintenant.
Et pourquoi ?
Vous savez, quand vous étiez bon, on vous mettait dans la FFI, vous n'aviez pas le choix, enfin, c'était comme ça. Simplement, après le bac, j'ai voulu choisir. Je voulais pas faire des études scientifiques, je voulais pas faire ingénieur. D'ailleurs, je voulais, c'était, je peux pas dire je voulais écrire, mais c'était encore confus. Je savais pas par où ça allait se passer, mais c'était de toute façon une espèce d'expression poétique, comme ça. Et donc, je rentre en fac. Évidemment, le double choc, à la fois, politique, parce que on n'avait été absolument pas formé à ça. D'un coup, vous prenez tous les discours des révolutionnaires, là, de tous les trotskistes, de la Ligue gauche prolétarienne, etc. Des jeunes gens qui étaient incroyablement brillants, qui avaient une phraséologie extraordinaire, qui vous parlaient de gens dont j'avais jamais entendu évidemment parler. Il y avait fallait connaître tout le panthéon de la révolution soviétique. Et puis, donc, première chose, alors là, quand vous venez d'un collège religieux, vous êtes déjà catalogué comme quasiment le diable. Donc, je masquais ça, que j'étais dans un collège religieux, fallait mieux pas trop le dire, parce que sinon, vous étiez excommunié laïquement sur le champ. Et puis, l'autre chose, c'est, alors que j'arrivais avec cette idée de l'écriture, voilà, écrire, c'est raconter une histoire, c'est faire de belles phrases, etc. Et je découvre ces années de théorie littéraire, la mort du roman, etc. Et donc, je fais ce choix des lettres, où d'emblée, on m'explique que, ben non, c'est fini. Vous voyez, c'était un peu compliqué.
Ce qui est marrant, du coup, Jean Rouault, c'est que vous êtes tout le temps en décalage. Dans le petit village, vous étiez en décalage, et puis à l'université, vous êtes en décalage. Et ensuite, dans d'autres livres autobiographiques, comme un peu la guerre, vous racontez votre vie d'écrivain dans le Paris littéraire. Et là aussi, vous êtes quand même aussi toujours un petit peu en décalage. Vous n'arrivez jamais
Je cherche désespérément une famille et je n'y arrive pas. Et à chaque fois, on me fait comprendre que, je n'y ai pas ma place. Mais c'est régulièrement... Je ressens ça, quoi. Je suis fondamentalement solitaire, on va dire. Et alors que je rêve de ça. Quand j'ai fait les choses, des textes avec Le Bris là sur le constat de littérature monde, parce que on a inventé ça avec lui et Mabankou.
On en parlera. Oui, là, c'est un essai.
Je me suis vu là dans une. Je n'étais plus seul. Quand j'ai écrit dans l'Huma, je me suis dit, ça y est, j'ai à nouveau une famille. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi. Je suis inassimilable.
C'est le destin de l'écrivain.
Peut-être, en tout cas. Des fois, ça me peine quand même, parce que c'est agréable de se sentir entouré. Et puis, bad karma, quoi.
Et pour en revenir aux années de fac, aux années d'université, Jean Rouault, c'est à la fois très lumineux, parce que comme je le disais, c'est la liberté, c'est quand même, à côté des collèges religieux, ça change beaucoup, et vous découvrez le fait de voyager en autostop, vous nous parlez des cousins du Sud qui vous embarquent dans des histoires absolument incroyables, et en même temps, il y a beaucoup de désillusions. Il y a un constat un peu amer sur ces années où on va de petit boulot en petit boulot et où pas mal de jeunes se fracassent sur des idéaux qui n'ont pas tenu finalement.
Ça a été extraordinaire pour moi, parce que si je n'avais pas connu ça, je ne sais pas comment je me serais sorti de cette éducation-là que j'avais reçue. Et ça a été violent, mais d'un coup, on m'ouvrait des portes. C'était une frénésie de vie. J'étais vraiment pas doué pour ça, mais simplement d'être témoin de ça, toujours ce rôle de témoin, ça me comblait. Et j'avais donc ces cousins dans le Sud qui eux étaient en avance, puisque le Sud est toujours C'était la modernité, alors que nous, c'était le soleil et l'huile d'olive. Nous, c'était la pluie et le beurre. Donc, vous voyez, on perd dans ces cas-là. Dans tous les régimes de santé, vous regardez, c'est pas le beurre qui gagne. Et donc, ils avaient ils étaient solaires, véritablement. Et moi qui sortais en plus de ces années de, non seulement de collège, mais aussi de deuil, ils m'ont remis à flot, enfin, ils m'ont appris à vivre d'une certaine manière. Donc j'ai une gratitude infinie pour eux. Et puis, ce qu'il y a, c'est que il y avait, évidemment, ça passait par un mode de vie qui refusait le travail, c'est-à-dire l'aliénation du travail. Ça, ils ne travaillaient jamais, hein, c'est situationniste. Et donc, ça consistait, puisqu'on n'était pas rentier, à vivre de petits boulots comme ça. Et de petit boulot en petit boulot, le temps passe. Et vous avez les gens qui rentrent, eux, dans le système, qui au bout d'un moment, il y en avait beaucoup, par exemple, qui passaient le concours pour rentrer à la poste. Après, je les repérais, vous voyez, c'était au guichet, c'était ceux qui avaient les cheveux longs et tout, là. Et puis ceux qui continuaient dans la marginalité. Et là, à ce moment-là, on n'est pas loin de la clochardisation, quoi.
Mais vous-même, vous étiez parti dans l'idée de ne jamais travailler.
Voilà. Et le kiosque, c'est la suite logique de tous ces petits boulots. Sauf que quand vous passez 30 ans et que vous êtes toujours à vendre des journaux, c'est une période pareil, formidable, extrêmement formatrice pour moi. Je travaille dessus, là. Mais bon, c'était pas ma vocation. Mon idée, c'était de rentrer en littérature. J'aurais pu être le meilleur marchand de journaux de Paris. C'était pas comme ça que j'avais envie d'être reconnu, tout simplement. Et ça, c'était encore une fois, l'aboutissement logique de ces années où on rejetait le travail, le système, la hiérarchie, l'autorité. Et passé un moment, vous êtes mort. Quand j'étais au kiosque, vers la fin, là, je me disais, mais si ça marche pas, mon truc, là, mes livres, mes écrits, qu'est-ce que je fais? Et alors là, j'ai eu un moment de panique. J'ai pris le Nouvel Obs, j'ai vu une petite annonce, c'était « On cherche rédacteur-concepteur ». Je savais pas ce que c'était. Et rédacteur, c'est rédiger, concepteur, c'est concevoir. Bon, je vais leur montrer que je sais rédiger et concevoir. Donc, je fais une longue lettre. Et il y avait « Dites-nous ce que vous avez fait » et réponse assurée à toute lettre. Je fais une lettre, je commence comme ça. Ce que j'ai fait, me demandez-vous. J'ai 36 ans. Ce que j'ai fait, me demandez-vous. Grosso modo, rien. Et je pensais que c'était vraiment que là, je montrais que je savais rédiger et concevoir. Et donc, une longue lettre comme ça. J'ai attendu la réponse, puisqu'elle était promise à tous, mais pas aux cinglés. J'ai relu il n'y a pas longtemps la lettre. Mon Dieu, c'est à pleurer.
Merci Jean Rouen.
Merci.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Sylvie Tanet avec Jean Rouault. À voix nue, attachée de production Claire Poinsignon, prise de son Étienne Leroy, réalisation Anne-Pascale Desvignes. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur franceculture.fr.